Bonjour à tous, c'est Dorothée. Je suis heureuse de vous retrouver. Ondes positives, l'émission de CFM Radio branchée sur l'optimisme, c'est maintenant. Aujourd'hui, je reçois Philippe Carole.
Bonjour.
Bonjour Philippe, merci d'être là.
Merci à toi.
Philippe, tu vis actuellement à Fronton où tu es acupuncteur, praticien en médecine chinoise. On reconnaît à ton bel accent que tu es né et que tu as passé ton enfance dans le coin.
Voilà, je suis toulousain pur sucre.
Voilà, et puis une enfance à Grenade-sur-Garonne.
En Grenade, voilà.
Et alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu dis avoir été un enfant psychorigide et soumis. Tu peux m'expliquer ?
Eh bien, oui, déjà, ce que je peux dire, c'est que il faut parfois beaucoup d'années avant de s'apercevoir de l'état dans lequel on était quand on était enfant. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai passé mon enfance que je pensais être relativement heureuse, ce qui a certainement été le cas en partie. Sauf que après mon enfance, j'ai eu des soucis de santé. Et lorsque je me suis penché plus fortement sur mon cas, j'ai analysé un petit peu ce qui s'était passé pendant mon enfance. Et effectivement, je pense que j'ai suivi et subi beaucoup de règles qui m'ont permis de fonctionner tant bien que mal, mais qui m'ont certainement affecté assez profondément dans mon être, en fait.
D'accord, donc une éducation stricte.
Une éducation stricte. Je pense qu'il y avait quand même de l'amour. Mm-hmm. Mais qui était certainement un petit peu occulté par cette éducation que j'ai reçue et qui faisait que voilà, j'étais obligé de suivre, comme je disais, certaines règles tout le temps. Et pour autant, je pense que j'ai passé pas mal de temps sans même remettre en question ce mode de fonctionnement. Pour moi, c'était ce qu'on m'avait appris. On me disait que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner. Mais donc tout naturellement, je dirais, je faisais comme ça, quoi. En fait.
D'accord, un enfant sage qui
suit les rails. Un enfant très sage,
apparemment,
voilà. Qui ne se rebelle surtout pas. Voilà, avec, je dirais aussi quelque chose un petit peu caractéristique entre mes parents, c'est que mon père me mettait la barre très haute, et donc il fallait toujours être parfait, etc., etc. Et je dirais que ma mère, au contraire, avait tendance à me dénigrer, à voir que les côtés un petit peu négatifs, etc. Et donc, j'ai été un petit peu écartelé entre quelqu'un qui me voyait très bas et quelqu'un qui voulait que je sois très haut, en fait. Voilà. Et donc, moi, Philippe, petit enfant, je savais pas trop où j'étais. Et puis même, une fois justement adulte, c'était la grande difficulté d'être... C'est-à-dire que quand j'étais pas au top, j'étais forcément très, très bas. Je me sentais très très bas.
D'accord. Donc tu passes une enfance comme ça, sur des rails, sage, un peu dans la soumission. Tu le vois maintenant comme ça avec du recul. Et à l'adolescence, à l'âge où normalement on se rebelle un peu, qu'est-ce qui se passe ?
Mais là je pense que déjà je ne me suis pas rebellé en tant que tel. Et je crois quand même que c'est plus mon corps qui s'est rebellé contre moi. Ou qui a essayé certainement de me parler, puisque à partir de l'adolescence, j'ai commencé à avoir adolescence et jeune adulte des symptômes physiques de douleur, de maladie.
Oui. Et puis tu me disais aussi que à l'adolescence, tu commençais à entrevoir une porte de sortie. C'est toi
oui.
qui utilises ce terme.
Oui, effectivement, oui, bien sûr. C'est-à-dire que à l'adolescence, j'étais quand même très mal, très très mal. J'avais des passages où vraiment psychologiquement, j'étais pas bien. Et j'avais une porte de sortie effectivement qui était le suicide en fait. C'est-à-dire surtout, plus exactement, la pensée du suicide. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est quelque chose qui était très réconfortant pour moi et qui m'aidait justement souvent à passer le cap de ce mal-être que j'avais, puisque je me disais que j'avais toujours une solution qui pouvait mettre un terme à mon mal-être. En fait, voilà. Et donc cette pensée du suicide qui a été parfois très proche quand même, donc m'a suivi quand même pas mal de temps dans ma vie.
D'accord.
Et ça me permettait, comme je disais, aussi bizarrement que ça puisse paraître, ça me permettait d'arriver à passer au-delà de ça et de continuer malgré tout à vivre. Quoi.
D'accord. Donc on dit, l'adolescence, c'est la période pendant laquelle on se remet en cause, on se pose plein de questions. Ça peut générer parfois une forme de désespoir avec des idées suicidaires. Et cette idée, elle t'accompagne à l'âge adulte?
Elle m'accompagne à l'âge adulte, effectivement, ouais. Longtemps. Mm-hmm. Longtemps. Alors, c'est pas forcément tout le temps, bien entendu. Hein. Il y a quand même des phases où on vit mieux que d'autres. Hein. Mais effectivement, chaque fois qu'il y a des situations de crise, et des situations de crise, je dirais que j'aperçois. C'est-à-dire que maintenant, avec le recul, je m'aperçois que j'ai été vraiment pas bien dans ma peau, comme on disait, enfant, adolescent, adulte. Et je ne m'en apercevais pas forcément. Mm-hmm. Pour moi, j'étais quelqu'un qui fonctionnait bien. C'est vraiment l'impression que j'avais, quoi.
D'accord.
En tous les cas, sur le plan psychologique, ce que je croyais.
Et ce jeune adulte, Philippe, à 20 ans, il est toujours psychorigide, pour employer le terme que tu utilisais pour ton enfance?
Oui, avec le recul, encore une fois, je peux dire que j'étais certainement psychorigide.
Ouais. Oui.
Sauf que, comme je disais, je n'arrivais pas à le voir sur le plan psychologique. Mm-hmm. Et mon corps me l'a rappelé fortement pendant des années.
Oui, alors explique-nous ce qui te disait ton corps.
Mais mon corps, tout simplement, j'ai subi des rhumatismes inflammatoires.
Oui.
Alors, il y a un terme encore plus précis, ça s'appelle une spondylarthrite ankylosante. Et lorsqu'on va vers la médecine classique occidentale, on nous dit que c'est quelque chose qu'on va subir toute notre vie, mm-hmm. Il va falloir manger des anti-inflammatoires toute la vie.
D'accord.
Y a un facteur génétique, donc le HLA-B27, etc., etc.
Oui.
Donc tout un tas de facteurs qui ne nous font pas forcément nous remettre en cause, loin de là, puisque en gros nous explique que c'est pas de bol, c'est une partie génétique qui fait ça, et mm-hmm. Donc à la limite y a rien à faire de particulier.
C'est irrémédiable.
C'est ce qu'on nous dit et on nous laisse entendre, en fait. Hein.
D'accord. Et au quotidien, ça se traduit comment, cette maladie?
Ça se traduit par beaucoup de douleurs.
Oui.
Par une rigidité du corps.
Oui.
Donc, qui rejoint certainement celle de l'esprit.
Oui.
Et donc, ça veut dire quand même que quand j'ai 20 ans, j'ai vraiment la sensation d'être un papy. Hein, c'est-à-dire que quasiment tous les jours, je suis obligé... je peux pas rester assis, il me faut m'allonger pour me reposer, pour soulager mon dos des douleurs que j'ai.
Mm-hmm.
Voilà, c'est surtout donc la colonne vertébrale, les sacro-iliaques, etc. Hein, au départ.
D'accord. Et à cette époque, personne ne fait le lien entre ton état psychique et ton état corporel?
Alors, je dirais que si. Mmh. Jeune adulte, j'ai un ami qui me dit, qui me balance un mot, qui me dit, mais c'est certainement psychosomatique.
Oui.
Et moi, psychosomatique, pour moi, ça veut dire, si t'es malade, c'est que t'as un problème psychique. Et moi, à l'époque, je n'arrivais pas à l'entendre.
Oui.
Ni à le comprendre, je dirais. Et puis, c'est pour moi presque vexant qu'on puisse me dire que j'ai un problème psychique, en fait. Voilà.
D'accord. Tu penses, je suis malade mentale, tu dis quoi?
Voilà, exactement. C'est un petit peu la connotation que j'entends derrière derrière ce mot. Et bien sûr, j'ai pu depuis m'apercevoir effectivement que psychosomatique, effectivement, c'est... Derrière ce mot se cache beaucoup de choses, beaucoup de réalités, en fait. Hein. Et c'est même le travail que je fais actuellement, donc en tant que praticien en médecine chinoise, j'ai enfin compris que le psychique et le physique étaient totalement liés, et mm-hmm. que l'un ne pouvait pas fonctionner sans l'autre, et que l'un parlait de l'autre, en fait.
D'accord. Voilà. Mais à cette époque, en tout cas, tu n'es pas dans cette compréhension-là?
Non, je suis absolument pas dans cette compréhension. Et donc, pendant des années, je fonctionne comme je peux, avec des anti-inflammatoires qui me soulagent un petit peu, mais pas trop.
Mm-hmm.
Et quand j'essaie de les arrêter, en fait, c'est un peu comme quand on arrête une drogue forte, où on a des symptômes encore pires que quand on se drogue. Hein,
voilà. D'accord. Donc, pour illustrer ce morceau de vie, cette tranche de vie, tu as choisi d'écouter « Tous les cris, les SOS » de Daniel Balavoine.
Oui.
Quand un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air
dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse. Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse.
Cette chanson, Philippe ?
Eh bien, il y a deux aspects. On sent vraiment dans cette chanson beaucoup de détresse. Mmh. Et en même temps, il lance un SOS, ça veut dire qu'il se... Comme il dit aussi dans la chanson, il se raccroche à la vie. Donc, il a encore un espoir. Il demande de l'aide, en fait. Mmh. Et c'est un petit peu ce qui me caractérisait hein, à l'époque. C'est ça, c'est un grand désespoir. Et en même temps... malgré on a parlé des idées suicides, c'est une volonté quelque part dans moi d'essayer de m'en sortir et voilà, donc un SOS quoi en fait hein.
D'accord. À ce moment-là, quelqu'un va te porter secours ou quelque chose?
Pas vraiment. Mmh. Pas vraiment, c'est je continue bon an mal an en fait hein. Ou en tous les cas, c'est pas j'ai pas quelqu'un de fondamental qui va vraiment m'aider à sortir de ça. Mmh. Et je suis peut-être pas prêt non plus à ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui fait que soudain ça bouge?
Alors, il y a un événement majeur hein, dans ma vie, ça a été le décès de mon père, en fait.
Oui.
À la suite de son décès, en fait, je me suis senti très mal. En fait, je me suis effondré carrément. Mmh. Et sauf que je me suis en fait senti coincé parce que cette fameuse idée de suicide que j'avais, je ne me l'autorisais plus parce que j'avais des enfants, en fait.
D'accord.
Et donc,
malgré ton mal-être, tout ce que tu nous as raconté, tu avais construit ta vie. Tu avais une compagne,
oui,
des enfants,
compagne,
un boulot.
J'avais deux enfants en bas âge. Et donc, je ne pouvais pas m'autoriser à vraiment disparaître et à laisser tomber ces gens-là. Quoi.
Oui.
Donc, fait que je dis ces gens-là, c'est-à-dire mes enfants et ma famille. Quoi.
Oui.
Et donc, je me suis vraiment retrouvé vraiment coincé. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, bon, mais là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour aller mieux. Et j'ai décidé de faire une psychothérapie, en fait.
D'accord. Tu le décides tout seul?
Oui, je le décide tout seul. Oui. Je le décide tout seul. J'en parle à mon médecin généraliste. Mon idée de vouloir, en lui expliquant que je suis mal et que j'ai besoin d'être aidé.
Oui.
Et c'est une femme, elle me conseille une psychothérapeute que je suis allé voir,
oui,
qui était pas trop loin chez moi. Et je dirais que, déjà au premier regard, j'ai su qu'elle allait m'aider, en fait. Voilà. J'ai senti que c'était la bonne personne pour moi. Voilà.
Tu fais confiance en ton intuition?
Oui, là, c'est quelque chose qu'après j'ai développé, mais là, c'était, je pense que ça m'a parlé au fond de moi. Et voilà, donc j'ai commencé une psychothérapie, j'ai fait 2 ans de psychothérapie en y allant toutes les semaines en fait, donc c'était relativement intense.
C'est une psychothérapie par la parole, par le corps?
Alors,
comment ça marche?
Alors c'est par la parole, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il était important déjà pour cette personne de vraiment chaque fois m'orienter pour voir ce que ça me faisait dans le corps. C'était beaucoup dans la parole bien sûr, mais il y avait déjà une approche par rapport au corps, une approche émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressentais, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'était assez particulier parce que lorsqu'elle me posait la question ou me demandait de mettre des mots sur les émotions que je ressentais, et en fait, très très souvent, il y avait un grand blanc, un grand vide dans ma tête et j'étais incapable de mettre des mots, de savoir ce que je ressentais, en fait.
Couper de ton ressenti.
Couper complètement de ce que je ressentais. Alors, je voyais que je ressentais des choses, mais j'étais incapable de l'exprimer, en fait. Voilà.
Et ton objectif, par cette psychothérapie, c'est lequel?
Mon objectif était très simple, c'était d'aller mieux. Voilà, d'aller mieux, je dirais, de supporter plus la vie, et d'être mieux, de pas être dans ce marasme permanent de mal-être, en fait, tout simplement.
Oui, parce que là, ça devenait une obligation de la supporter, la vie, pour
tes obligation,
enfants.
C'était une obligation, voilà. Une obligation. Et alors, je dirais que le décès de mon père a été à la fois, donc, pour moi, quelque chose qui m'a énormément affecté. Et en même temps, ça a été libérateur.
Oui.
C'est-à-dire que je pense qu'au fond de moi, j'ai commencé à m'autoriser certaines choses que je ne m'autorisais absolument pas, du fait de mon éducation, du fait que je pense que je sentais profondément dans moi que mon père était quelqu'un certainement qui avait beaucoup de peur en lui.
Oui.
Et donc, si je m'étais autorisé de bouger, ça pouvait le déstabiliser, etc., etc. Et je pense que...
Par amour, tu ne bougeais pas.
Voilà, par amour, je m'interdisais de bouger, en fait. Et là, du coup, j'avais une porte ouverte pour pouvoir bouger.
Qu'est-ce qu'elle t'apporte alors, cette psychothérapie? Qu'est-ce que tu comprends?
Mais déjà, je m'aperçois que je commence un petit peu à faire le lien entre le corps et l'esprit. Et je commence à savoir ce que je ne veux plus faire ou ce que je ne veux plus être, mais surtout ce que je ne veux plus faire à l'époque.
Oui.
Donc à l'époque, j'étais commercial en fait. Et je dirais que j'ai eu un parcours professionnel qui m'a au final beaucoup aidé. D'abord une partie de technicien, ensuite de commercial, qui m'ont aidé à avoir à acquérir, à maîtriser certaines qualités, je dirais, de la rigueur, même si j'ai déjà parlé de psychorigide, mais de la rigueur dans mon travail, etc. De l'écoute aussi, à travers le métier de commercial.
Oui.
Et tout ça, ce sont des éléments, au final, qui m'ont servi ensuite pour mon métier actuel, en fait. C'était quoi,
et donc, je te demandais ce que t'avais apporté cette psychothérapie. Et apparemment, tu me dis que.
Alors déjà une petite forme de libération.
Oui.
Et puis surtout, donc, il s'est passé quelque chose pendant cette psychothérapie. Mmh. Grâce ou à cause de ma maladie, je me suis donc fait beaucoup masser en fait. Du coup, je commençais à entrevoir l'idée de changer d'optique professionnelle, mm-hmm. et d'aller vers quelque chose en lien avec le bien-être. J'avais envie, je dirais, de faire du bien aux gens. Je savais pas trop. Alors, j'avais envisagé de monter un centre de bien-être, un centre de massage, quelque chose comme ça. Voilà. J'avais quelque chose comme ça qui commençait à mûrir dans moi.
Oui.
Et en fait, un jour, je suis allé sur Internet. J'ai tapé le mot massage. Et donc je suis rentré sur un site sur lequel il y avait tout un tas de mots écrits. Je me souviens, c'était un bandeau à droite, et sur tout ce qui concernait les thérapies alternatives. Et là, j'ai vu un mot, j'ai vu acupuncture. Et en fait, c'est devenu comme une évidence pour moi. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
Au moment où tu lis ce mot.
Au moment où je lis ce mot, c'est devenu, mais vraiment comme une évidence. Et je dirais que ça m'a parlé au niveau du ventre, vraiment.
Oui.
C'était absolument pas intellectuel. C'était vraiment en profondeur, en disant mais alors que je n'avais aucune base encore à ce moment-là où je les avais très enfouis, je dirais, mais aucun savoir particulier encore par rapport à ça. C'était mais vraiment comme une évidence que je devais aller vers ça en fait.
Ça t'a parlé au niveau du ventre. Tu as ressenti quoi maintenant que tu sais parler de tes ressentis? C'était quoi, un boom? Une brûlure, des fourmis.
C'était comme une forme d'évidence, ça c'est sûr. Et peut-être un boom, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans mon ventre. Voilà.
D'accord.
Voilà. Pourquoi pas un boom, ouais.
Donc tu écoutes ton ventre et tu t'inscris une formation.
Voilà, je m'inscris très rapidement à une formation. Mm-hmm. Voilà, il me tarde de la commencer. Le matin où je pars en formation, je suis extrêmement ému, jusqu'à ému aux larmes même,
oui.
d'aller vers ce que je pense être ce qui me correspond, quoi. Hein.
Oui.
Et puis en fait, c'est quelque chose qui ne s'est jamais démenti. Je me suis toujours senti bien pendant la formation et ensuite pendant mon activité professionnelle.
Tu oses. C'est à ce moment-là que tu oses.
Et voilà. Et en fait, c'est de voir que je vais oser quelque chose, ma transformation, en fait, effectivement.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voix. Au moins essayer l'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Donne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Rien, une route, tu peux avancer.
donne à ta vie. C'est l'heure. Oh 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 oh.
Ose de Yannick Noah. Alors, tu l'écoutais beaucoup cette chanson à l'époque ?
Eh bien, à vrai dire, en fait, c'est ma psychothérapeute qui m'avait suggéré d'écouter cette chanson. Et je l'écoutais, en fait, quand je l'ai découverte, je l'ai écoutée en boucle pendant, pendant un bon moment, parce que tellement elle me parlait, tellement c'était ce que j'étais en train de vivre, en fait, hein, d'oser, en fait, hein, d'oser oui. Le changement extérieur et surtout intérieur, changement profond. Donc c'était le début, mais il faut arriver à s'en convaincre que parce que c'est pas facile hein, de changer, de d'oser changer en fait. Hein. Tout est là, c'est que quand on comprend qu'il faut juste oser et qu'il faut parfois juste quelques, comme dit la chanson, des petites choses qu'il faut écouter, qu'il faut savoir entendre en fait. Hein, et, bien, on commence à oser et à partir sur de nouvelles voies, en fait.
D'accord. Alors, tu nous expliquais un peu ta formation d'acupuncteur et de praticien en médecine chinoise. Mm-hmm. Elle a duré 5 ans, cette formation.
Voilà, c'est un premier cycle de 3 ans, ensuite un deuxième cycle donc de 2 ans, qui vient compléter la première formation.
Et qu'est-ce que tu y apprends ?
Mais déjà, ce que j'apprends, une nouvelle vision déjà de... à travers la vision de la médecine chinoise, une nouvelle vision du corps et de l'esprit, et c'est-à-dire et des émotions. La médecine chinoise intègre complètement la part émotionnelle dans les pathologies. Et moi, j'ai à tous mes patients maintenant, je dis que en fait, 95% des pathologies, quelles qu'elles soient, d'ordre psychologique ou physique ou quoi que ce soit, ont une origine émotionnelle. Et c'est tellement vrai. Et c'est extrêmement important, vraiment, de pas se couper de ses émotions et de comprendre que l'émotionnel, le physique, le psychique, tout ça, c'est complètement lié, en fait.
Alors, toi, tu es malade à l'époque, justement.
À l'époque, je suis malade. Effectivement, je souffre encore de mes soucis, donc de spondylarthrite ankylosante. Et, une de mes victoires, ça va être, d'en sortir, en fait, parce que j'ai compris ça, parce que j'ai fait des choses pour moi. Donc ça est passé notamment donc par la psychothérapie, par l'acupuncture, par le soin que je me suis apporté au corps et à l'esprit. Une de mes grandes victoires, je dirais, c'est d'avoir pu arrêter les anti-inflammatoires.
Oui.
On m'avait promis que c'était pour la vie, j'ai réussi à les supprimer complètement. J'ai eu une phase intermédiaire où je me suis servi d'huile essentielle, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, mais qui m'ont permis donc déjà d'arrêter les anti-inflammatoires classiques que je prenais depuis des années. Et jusqu'au jour où je me suis aperçu que je prenais de moins en moins les huiles essentielles, je les oubliais, parce qu'en fait, je n'avais plus de douleur ou très peu de douleur.
Oui.
Donc ça, c'était plus qu'une petite victoire, une grande victoire, en fait, parce que c'était très symbolique, en fait, c'est de mieux être. Et je dirais, le corps allait mieux, et parce que l'esprit commençait à aller mieux aussi, quoi, tout simplement. Je rajouterais quand même qu'il y a aussi une part importante dans la bonne santé, qui est l'alimentation. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais pour dire quand même que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le maintien de la bonne santé aussi.
Oui, parce que tu changes un peu de régime alimentaire également à cette époque.
Alors, je commence à l'entrevoir. Et puis, depuis maintenant pas mal de temps, effectivement, je comprends aussi que les aliments, eh bien, il peut y avoir des aliments qui enflamment le corps et des aliments qui font que le corps ne s'enflamme pas.
Oui.
Et par expérience, et je connais pas mal de gens maintenant qui font ce type de régime, c'est-à-dire un régime sans laitage et sans gluten, et qui ont des soucis inflammatoires qui disparaissent. Ça peut être vrai sur le plan digestif, sur le plan articulaire, ça peut fonctionner sur des pathologies comme la sclérose en plaques, où il peut y avoir des résultats assez spectaculaires parfois.
D'accord.
Et moi, à cette époque, je me considère un petit peu... donc je suis pas un jeune homme de 20 ans, parce que tout simplement, j'ai mon corps qui a brûlé pendant de l'intérieur pendant des années.
Oui.
Et je me vois un peu comme une maison qui aurait brûlé pendant des années, mais qui ne brûle plus.
D'accord.
Et avec, on va dire, quand même un peu de dégâts à l'intérieur, ce qui est la réalité. Donc, j'ai quand même une colonne vertébrale qui est relativement abîmée, mais qui ne me fait plus mal. Et alors que pendant des années, j'étais comme un papy, maintenant, je peux aller courir, je peux faire du kung-fu, je fais du qigong, du tai chi chuan. Voilà, plus rien ne m'est franchement interdit. Je ne m'interdis rien. Juste quelques précautions pour pas que ça soit trop violent, mais comme je disais, je fais du kung-fu tranquillement, mais j'en fais quand même et ça et tout va très bien quoi.
Pendant la formation, tu quittes aussi ta compagne?
Oui, parce que c'est une formation, c'est pas anodin. Et on rentre dans une révolution comme je le disais, psychologique, émotionnelle, physique.
Oui.
Et à un moment donné, les êtres avec qui on a pu être, qui nous correspondaient, ne nous correspondent plus. Et puis donc sur ma voie, c'était une séparation obligée.
D'accord.
Ce qui m'empêche pas d'être assez proche de mon ex-compagne, notamment on a des enfants en commun, hein, donc on fait tout pour que ça se passe vraiment bien avec nos enfants et ça se passe vraiment très bien.
Oui, parfois on considère une séparation comme quelque chose, un événement forcément négatif, mais c'est pas forcément négatif.
Alors, je dirais pas que ça a pas été sans douleur, hein, c'est
bien
jamais
sûr.
Simple de faire ce genre d'événement, notamment parce qu'il y avait les enfants, il a fallu leur expliquer, revenir souvent là-dessus, il y a notre propre mal-être du fait de la séparation qui est jamais simple. Qui était aussi, moi j'avais aussi cette problématique de séparation, donc qui n'a pas été simple à gérer. Et au final, je m'aperçois que c'est que bien parce que c'est mieux, il vaut mieux faire ça et être bien après chacun de son côté, je dirais, plutôt que d'être mal ensemble, en fait, tout simplement.
D'accord. Donc la quarantaine, un nouveau métier, célibataire, plus de médicaments. Une nouvelle vie commence.
Une nouvelle vie commence, effectivement.
Complètement positive.
Oui, plutôt positive, on va dire, effectivement.
Qu'est-ce qu'elle a de positive, cette nouvelle vie?
Je dirais que ce qu'il y a de plus positif, c'est que je vais vers ce qui me correspond, vraiment.
Oui.
Et je crois fondamentalement qu'il me semble que la plupart des gens ont... je dirais que on parle de la crise de la quarantaine, c'est à mon avis quelque chose qui est vraiment réel. C'est-à-dire que je considère qu'on a une première partie de vie où on fait comme en fait on nous a appris, on fait selon les modèles qu'on nous a inculqués, etc. Et jusqu'au jour où on a besoin d'aller vraiment vers ce que nous sommes vraiment, nous trouver, vraiment se trouver soi-même. Et c'est cette deuxième partie de vie qu'on fait ou qu'on ne fait pas d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se l'autorisent pas. C'est dommage, à mon avis. Parce que quand on se l'autorise, on va vraiment vers ce qui nous correspond et après tout devient plus fluide, plus facile quand même. Voilà.
Oui. Et tu me disais que toi, ce qui te correspond, c'est travailler de façon libre et indépendante et faire du bien aux gens.
Oui.
C'est ça.
Voilà. C'est vrai que quand on soigne des gens, alors donc, le soin aux gens, c'est quoi? C'est effectivement pouvoir soigner des pathologies. Mais c'est aussi leur montrer et leur faire comprendre. Moi, je me sers beaucoup de mon parcours de vie et en leur expliquant ce que moi j'ai fait, etc., pour qu'ils comprennent cette interaction qu'il y a et qu'ils sont acteurs de leur propre santé.
Oui, ce que tu es en train de faire là maintenant en témoignant d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. C'est que il ne faut même si effectivement on peut se tourner vers des thérapeutes et c'est forcément très bien. Moi, je continue même encore là-dedans. Donc, c'est parfois certainement un passage obligé de se faire aider. Mais s'il n'y a pas cette partie où on comprend que c'est soi-même qui est acteur de sa propre santé, mais on va passer à côté, en fait.
Quel est le message positif que tu as envie de donner aujourd'hui à ton entourage, aux auditeurs de CFM?
Je dirais que si ça a été possible pour moi, c'est certainement possible pour les gens qui nous écoutent.
Oui. Accepter ses faiblesses, ses
absolument.
Peurs.
Absolument, et je dirais, oui, ça c'est extrêmement important.
Oui.
Il m'est arrivé un événement il y a à peu près un an, en fait, qui m'a fait me remettre encore profondément en cause, en fait, Parce que je crois aussi que ce qu'on peut dire, c'est que tout n'est pas linéaire. Les choses peuvent se faire par étapes. On peut avoir parfois l'impression de revenir à l'arrière. On y revient parfois un peu. Mais après, le fruit de l'expérience fait que ben, on avance quand même. Hein, et puis, on sait détecter des choses. Et en même temps, parfois... Et souvent, c'est les situations de crise qui nous font bouger, en fait. Et je dirais que j'étais rentré dans un petit confort où ça allait à peu près bien. Où... Et puis, il m'est arrivé des événements extérieurs, mais qui m'ont fait me remettre encore une fois profondément en cause. Et je dirais que cette fois-ci, c'était très profond aussi. Mm-hmm. Où, en fait, j'avais encore beaucoup de colère en moi. Et parce que j'avais fait de la médecine chinoise, parce que je fais de la méditation, parce que tout ça, j'ai pu, par rapport à cet événement fortement perturbateur, aller puiser à moi des ressources et vraiment me remettre encore une fois en question, mmh. et comprendre et accepter, et ce mot est important, accepter que derrière cette colère que j'avais encore, il y avait des peurs profondes, voire même des terreurs. C'est un mot qui m'a beaucoup parlé. Et quand je dis accepter, ça veut dire qu'en fait, quand on accepte ça, ça ne veut pas dire rester dans cet état-là. Ça veut dire c'est accepter pour pouvoir en sortir. Parce que tant qu'on nie ce genre de choses, on ne peut pas en sortir. Puisque ça veut dire que si on le nie, c'est qu'on considère que ce n'est pas dans nous.
Oui.
Et si on l'accepte, c'est vraiment la première étape pour dire, bon, mais ok, j'ai des faiblesses, j'ai des peurs profondes. Ok, je le sais. Je l'accepte, mais je m'y attaque, je fais le nécessaire pour sortir de ça et pour transformer encore une fois, encore et encore, je dirais, les choses et aller encore vers du mieux-être, je dirais. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'était un événement finalement relativement récent. Et maintenant que le gros de la crise est passé, je dirais pour moi, c'est du pur bonheur. Sincèrement, c'est... j'ai encore une fois remis en cause beaucoup de choses et j'ai des choses, j'allais dire, beaucoup plus grandes, peut-être encore plus lumineuses qui s'ouvrent devant moi.
Alors, parmi les messages que tu voulais faire passer, il y a aussi celui de Francis Cabrel.
Exact.
Facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors
il faudra leur dire
les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire.
Facile à faire.
Il faudra leur dire, de Francis Cabrel. C'est un morceau qui me touche énormément. Qu'est-ce qui t'évoque, Philippe ?
Alors, l'amour, déjà. Mmh. Et un peu plus d'amour que d'ordinaire. C'est-à-dire, pour faire en sorte de ne pas oublier cette dimension-là vis-à-vis des gens qui nous entourent, justement. Et les mots, comme dit la chanson, c'est quelque chose d'extrêmement important. Choisir ces mots... moi, je tendance à dire qu'un de mes objectifs, c'est de ne pas blesser, ne pas blesser les autres. Donc, c'est souvent à travers les mots qu'on peut blesser. Donc, dire les choses d'une certaine façon, puis exprimer les émotions et notamment l'amour.
D'accord. Tu disais l'amour que l'on a pour les personnes autour de nous et puis l'amour aussi que l'on a pour soi.
Pour soi, bien sûr. Ouais. Ça commence d'abord par ça. Quand on arrive à commencer à s'aimer, on peut aimer les autres aussi, certainement mieux.
Puis cette chanson, pardon, elle pose des questions aussi sur ce qu'on dit à nos enfants.
Oui, c'est ça. C'est que moi, j'essaie de dire à mes enfants, par rapport aux émotions, qui sont là pour les exprimer, qu'ils n'hésitent pas à les exprimer. Donc, comme je disais, je suis issu d'une famille où on exprimait très peu les émotions. Et moi, mes enfants, je leur dis, les émotions, c'est la vie. Donc, il faut les exprimer. Et ils savent faire, en fait. Hein.
Mm-hmm. Voilà. Oui, toute une génération et des générations de petits garçons qui ont entendu « pleure pas, un petit garçon, ça doit être fort ».
Exactement. Alors que, pleurer, si on a envie de pleurer, il faut pleurer, effectivement.
Qu'est-ce qu'on te souhaite, pardon, de positif encore, Philippe ?
De positif.
Comment elle s'annonce ta vie? Tu disais que tu la voyais encore plus lumineuse.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je vois bien que je suis sur un chemin de vie, avec de plus en plus d'ouverture. Hein. Donc, l'ouverture aux autres et l'ouverture à soi. Une part peut-être plus spirituelle, hein, je dirais. Je pense vers la spiritualité. Je continue, je dirais, des formes de thérapie.
Et qu'est-ce qui te motive alors que tu es un homme transformé?
Alors, je pense qu'on n'a jamais fini sa transformation, je pense pas. Bien d'aller vers encore plus de bien-être, hein, tout simplement. Parce que là, voilà, une fois qu'on est sur ce chemin, hein, c'est un peu comme quand on gravit une montagne, l'important c'est pas tant
d'arriver au
sommet, c'est d'être sur ce chemin-là et de le poursuivre, en fait. Et ça devient, et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que il arrive un moment où ça devient beaucoup plus facile.
Oui.
Beaucoup plus facile d'aller chercher ce qu'on a dans soi réellement.
Mm-hmm.
Parce qu'on sait que au final, chaque fois, on va aller mieux. Donc après, on n'en a plus peur d'aller chercher en soi ce qu'il y a, même si c'est des choses négatives, c'est plus du tout un problème d'aller les chercher parce que justement on sait qu'on va les évacuer et qu'on va aller vers vraiment du mieux-être. Voilà. Mmh. Donc c'est sans fin, quoi. C'est
une pas philosophie de vie.
C'est une philosophie de
un
vie.
Un cheminement. Ouais. D'accord. Bien, Philippe, c'est sur ces dernières paroles que nous arrivons au terme de l'émission. Je te remercie pour ton témoignage tellement intime.
Mmh. Merci à toi.
Et puis toutes les ondes positives que tu nous as émises de façon sereine et apaisée. Si les auditeurs veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te joindre?
Donc j'exerce l'acupuncture et plus largement donc la médecine chinoise sur Fronton et sur Grisolles. Donc Fronton qui est dans le 31, Grisolles dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne. Je donne mon numéro de portable.
Oui.
Donc c'est le 06 34 36 15 23. Voilà, et mon adresse mail c'est philippecarole tout en attaché, @yahoo.fr.
Voilà, et ces coordonnées seront reprises sur le site de cfmradio.fr.
Ah, très bien.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que cette émission est rediffusée samedi à 21h et qu'elle est également à disposition sur cfmradio.fr, rubrique les émissions. Vous retrouverez également sur le site toutes mes coordonnées si vous voulez témoigner. J'en profite pour vous dire que depuis le démarrage d'Ondes Positives il y a maintenant 3 semaines, j'ai déjà reçu un mail d'une auditrice qui souhaite participer pour raconter son expérience personnelle positive, ce qui m'emplit de joie. Donc bientôt vous l'entendrez sur les ondes. En attendant, je vous souhaite une belle semaine positive et à mardi prochain.
Winner.